France Musique.
Ah. Oh. Wakabi. Un divin.
Ici, Radio Meumeu.
Vous fumez beaucoup, Serge Gainsbourg.
Oui.
De l'entrée en scène, c'est comme des bras d'amour, hein.
À vous, mon cher Dac.
Après vous, mon cher Blanc.
Mais je n'en fais rien.
Vous en êtes un autre.
Ma parole, ça fera guincher.
Langage, langue, langage.
Je vous propose de m'accompagner dans un rez-de-chaussée un peu sombre de la rue de Grenelle, où Françoise Sagan a établi son domicile parisien. Nous traversons une vieille cour pavée et silencieuse, masquée par une porte cochère verte à double battant, impressionnante. Pénétrons dans la pièce. Un très beau Picasso bleu et blanc est accroché au mur, non loin d'une excellente reproduction d'une toile de Bruegel, L'hiver. Voici Françoise Sagan. Elle entre. À la vérité, elle est aussi timide que gentille. Asseyons-nous. Asseyez-vous aussi avec moi. Vous m'accompagnez. Nous sommes reçus en amis.
Toi qui t'en vas du même pas qui te mena contre moi, souviens-toi que tu n'auras jamais su remplacer les jours perdus.
Tu n'auras jamais su remplacer les jours perdus.
Notre amour que tu sais, que je sais provisoire, devient un lourd filet quand tu ris dans le noir en disant sans savoir les mots tendres et légers, poissons d'or du passé que l'autre murmurait. Ça joue contre ma joue inclinée.
Juarez, qui est votre nom, vous l'avez mis de côté, bien sûr, des Bonjour Tristesse. C'est l'éditeur qui vous a suggéré Sagan ou c'est vous qui l'avez trouvé?
Moi, personnellement, j'aurais pris Juarez, mais mon père m'a dit, nous sommes les seuls Juarez de l'annuaire, ce qui est vrai. Si jamais ton petit roman à la noix a du succès, on va t'embêter par le téléphone, s'il te plaît, change de nom. Et puis, j'ai cherché sans chercher, et un jour, Julien m'a téléphoné en me disant, alors, on imprime bien tout de suite, pendant la demi-heure, et j'étais affolée, il y avait un livre de Proust qui traînait. Bon, moi, j'ai feuilleté, et j'ai trouvé le prince de Sagan passé dans sa calèche. Et tiens, Sagan, c'est joli. Et heureusement, c'est un nom simple, S-A-G-A-N. Je m'appelais Juarez, je suis née Juarez, qui s'écrit Q-U-O-I-R-E-Z. Après, j'ai épousé un homme qui s'appelait Scholler, S-C-H-O-E-2-L-E-R. Et après, je suis divorcée et j'ai épousé un autre homme qui s'appelait Westhoff, W-E-S-T-H-O-E-F.
Oui.
Alors, vous pensez que Sagan, c'est une bénédiction.
Toi qui t'en vas du même pas qui te mena contre moi, souviens-toi que tu n'auras jamais su remplacer les jours perdus.
C'était Marcel Mouloudji, Les jours perdus, une chanson de Françoise Sagan et de Michel Magne. Démarrons presto cette émission Sagan car la vitesse, c'était son truc, en voiture, en écriture et jusqu'en voix. Une voix toute d'élégance, rapide, de débit bredouillé, de murmure intelligent. La voix de Sagan, c'est à peu de choses près ce que François Nourricier disait de son art d'écrire. Cet art, nonchalant mais assez subtil, la légèreté de touche, la vitesse sont les moyens d'expression dont la romancière est prodigue. Sagan écrit avec des caresses de fouet, ajoutait Nourricier. Une heure, donc, en compagnie de François Sagan, et on vous lance là tout de suite sur les ondes une séquence d'archives télévisée. Oui, c'est le petit rapporteur, ça vous dit peut-être quelque chose. Ce jour-là, Pierre Desproges inventait avec Sagan le genre de l'intervieweur inepte. C'est à pleurer de rire.
Françoise Sagan, comment ça va la petite santé?
Très bien, merci, ça va très bien.
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien.
Il n'y a pas de problème?
Non, j'ai rhume comme tout Paris, mais...
Qu'est-ce que je veux dire? C'est... Tiens, pas mal, c'est... la robe là, c'est bien ça. C'est pas mal comme tissu ça, c'est quoi?
Oh, c'est un mélange de toile, de flanelle, de drap, je sais pas quoi, c'est une jupe.
Ça pluche pas ça?
Non, ça pluche pas, ce tissu assez sec.
Ça se lave comment? Ça se lave à l'eau tiède, ce truc là, non? Ce genre de...
Eh bien, il y a... Non, ça se lave plutôt... C'est plutôt des choses qu'on met chez le teinturier.
Ah bon? Ouais, on peut pas... De toute façon, vous avez pas le temps. Moi aussi, quand j'ai pas le temps, je donne des trucs...
Au teinturier?
Au teinturier, ouais.
Oui.
Sinon, on serait toujours à faire la lessive, hein. C'est vrai.
C'est vrai. Et ben, je ne sais pas que je peux faire... pour vous, je sais pas, vous voulez pas quelque chose?
Je sais pas, peut-être, je sais pas, si vous avez du tilleul, je sais pas.
Du tilleul?
Ouais.
Oh oui, ça
se fait. Je savais pas quoi. Tout à l'heure, je vous avais demandé, j'ai pris ça, j'aime pas ça, c'est acide. Je savais pas, je vous connaissais pas bien avant, alors. J'ai pris ça. Je vous ai dit, peut-être qu'elle aime pas le tilleul.
Oh bah si, j'en bats rarement à cette heure-ci, mais enfin, je peux en trouver si vous voulez.
J'ai bien.
Je vais demander.
Avec des mouillettes.
Des mouillettes.
Des mouillettes avec du pain pour tremper dans le tilleul.
Quand tu dors près de moi, tu murmures parfois le nom mal oublié de cet homme que tu aimais. Et tout seul près de toi, je me souviens tout bas, toutes ces choses que je crois, mais que toi, ma chérie, tu ne crois pas. Les gestes étourdissants, étourdis de la nuit, les mots émerveillés, merveilleux de notre amour. Si cette terre te rejoint, si tu l'entends soudain, je t'en prie comme moi, ne dis rien, mais rappelle-toi, chérie.
C'était Georges Auric qui avait réalisé l'arrangement de la troisième symphonie de Brahms pour cette merveilleuse chanson signée François Sagan et Michel Magne, « Quand tu dors près de moi », qu'on entendait dans le film d'Anatole Litvak tiré du roman de François Sagan « Aimez-vous Brahms » avec Ingrid Bergman, Anthony Perkins et Yves Montand. C'était évidemment Yves Montand et sa voix de pure soie qui chantait ici. François Sagan, de son vrai nom donc Françoise Quarez, est l'invité de nos greniers aujourd'hui. Écrivaine française née en 1935 et décédée en 2004, ça fait 10 ans donc. Nous, eh bien c'est sa voix qu'on possède grâce aux archives de l'INA. Et ça n'est pas rien d'écouter Sagan nous parler de musique, car ses romans sont remplis de musique, celle que l'on écoute dans La croisière musicale, du roman Une femme fardée, dans Le lit des fées, dans Aimez-vous Brahms. On a la chance aujourd'hui d'avoir le comédien Xavier Gallet qui nous lira quelques beaux passages. Mais tout d'abord, c'est le jazz. Ce que Sagan aime dans le jazz, c'est, je la cite, son tempo, une insouciance accélérée. On va l'écouter dans cette émission de radio, elle est toute jeune lorsqu'elle parle, c'est une émission de Luc Bérimont du 25 juillet 56. François Sagan est tout juste majeur, 21 ans, mais depuis Bonjour Tristesse, c'est déjà un véritable personnage de roman.
Et le jazz? Qu'est-ce que c'est pour vous, le jazz?
Le jazz, je sais pas, j'aime beaucoup ça.
Vous avez toujours entendu du jazz dans votre milieu, dans votre famille. J'imagine que vos parents déjà écoutaient du jazz.
Et puis mon frère a quand même 8 ans plus que moi. Quand j'avais 7 ans, il en avait 15 ou 16. Il commençait déjà à rapporter les 10 d'Armstrong. Alors depuis 14 ans, j'écoute du jazz. Aussi, le jazz, c'est quand même ma vie, si vous voulez. C'est le rythme, c'est je rentre, je sors, et cette musique. Il y a les portes des boîtes de nuit qui s'ouvrent sur une trompette, il y a tout, l'espèce de c'est le tempo, quoi. C'est un peu de toile de fond.
Un métronome.
Mais Mozart, c'est comme quand on ouvre un livre, quoi. Il faut s'arrêter et plonger dedans. C'est pas une chose qu'on peut ne pas écouter facilement. J'avais quelque chose dans la voix qui me brisait le cœur, comme à plein de gens, je crois. Une espèce de voix rauque un peu cassée, puis une manière de prononcer les mots très, 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 très triste et très sensuelle à la fois. Enfin, si on aime sa voix, on est très sensible à sa voix. Et comme j'ai eu l'occasion de... Je raconte ça dans le livre, l'histoire de l'occasion de la voir. J'étais à New York pratiquement pour la voir, avec un ami à moi qui était musicien.
Il y a pas le taxi pour aller dans le Connecticut.
Oui, c'est fou. Oui, une sorte de fou. J'étais avec un ami à moi, c'est Michel Mann, qui fait des musiques de films, qui était aussi très amoureux de cette voix. On a été la voir au fin fond d'un endroit où elle chantait, puisqu'elle était interdite de chanter à New York pour des histoires de drogue. Maintenant, ça ferait rire tout le monde. Et on l'a écouté chanter là-bas, puis après, elle est venue à New York. On a passé 15 nuits ensemble, on se retrouvait tous les soirs à 4h du matin, et elle chantait de 4h du matin à 8h ou midi, quelquefois, selon son... Oui, avec nous, pour l'écouter. Quelque chose dans sa voix spéciale, qui me touchait plus précisément. C'était quelque chose qu'on ne peut pas définir. C'est comme dans les chanteuses d'opéra, il y a quelque chose dans la voix de Montserrat Caballé qui me touche plus que dans la voix d'autres.
Autumn in New York, why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel, they're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. autumn in New York is often mingled with pain.
Autumn in New York, la voix triste et sensuelle de Billie Holiday qui brisait le cœur de Françoise Sagan, comme elle le confiait juste auparavant à Pierre Bouteiller, c'était sur France Musique, en 1984. En 84, Sagan venait tout juste de sortir l'un de ses plus beaux livres, Avec mon meilleur souvenir, sorte d'autoportrait sous forme de petits portraits d'autres figures, des figures rencontrées, et un ouvrage d'ailleurs qu'elle ouvrait par un magnifique portrait de Billie Holiday, que tout fan de la grande chanteuse se devrait de lire. Passage obligé dans une émission consacrée à Françoise Sagan, le récit de la bombe explosée dans la France pudibonde des années 50, à savoir la parution en 1954 du premier roman écrit par une toute jeune fille de 17 ans, Bonjour Tristesse. Deux ans plus tard, en 56, au micro du très sérieux critique Luc Bérimont, qui était par ailleurs poète, Sagan racontait.
Comment, un jour, avez-vous idée de vous écrire une machine à écrire et de commencer d'écrire le roman, comme toutes les jeunes filles? Emporté par l'enthousiasme, mais aussi un peu par l'inconscience. Ou est-ce que vous étiez très consciente de ce que vous pouviez faire déjà?
Non, en fait, j'étais surtout. J'avais surtout la conscience que ce serait un échec. Je veux dire, la conscience que j'arriverais jamais au bout, que j'étais incapable de rien faire parce que je suis une grande Valérie devant les efforts à faire, quels qu'ils soient. Et j'ai surtout commencé à écrire en me disant. C'est une entreprise absurde, quoi. J'arriverai à rien. Je suis une petite jeune fille qui écrit un roman et voilà, ça va s'arrêter là. Et puis je me retrouve au quatrième chapitre, comme. Je veux dire, au début, ça a été affreux, quoi. Le premier chapitre, le deuxième chapitre, c'était extrêmement humiliant, en fait. J'écrivais presque contre moi-même. Et puis à un moment, ça s'est mis en marche, quoi. Ça s'est mis en marche dans le sens que je me suis dit, bon, au fond, il faut l'écrire jusqu'à la fin, on verra. Et puis j'avais de très bons amis auxquels je le disais et que ça intéressait, ce qui est quand même énorme.
Alors un jour, le manuscrit de Bonjour Tristesse a été terminé. Il a fallu trouver le titre. Vous l'avez trouvé dans Éluard, le titre.
Oui.
Parce que vous étiez nourri d'Éluard à cette époque-là.
Je lisais beaucoup Éluard. C'est vrai, on ne peut pas être nourri de poésie parce qu'on ne peut pas lire tout le temps de la poésie, mais le poète que j'ai à ce moment-là, c'était Éluard. D'ailleurs, c'est toujours Éluard, je l'aimais toujours beaucoup. Et je lisais ça de temps en temps et c'est tombé précisément sur ce titre.
Alors, vous avez pris le manuscrit. C'est un objet encombrant, un manuscrit, surtout quand on a 18 ans.
Non, parce que, en fait, c'était des pages tapées à la machine. Et j'avais fait un brouillon, qui était sur un petit cahier, etc. Le petit cahier bleu, c'était celui que je lisais à mes amis.
Réaction du milieu familial.
Quand mon livre est paru?
Non, quand le livre a été écrit et que vous avez dit à votre père et à votre mère.
Oh, non, voilà, j'aurais pas dit parce que je me sentais trop ridicule. Enfin, je pensais tellement peu qu'il serait édité. Ça me paraissait tellement miraculeux que j'aurais pas dit j'ai voulu attendre que ce soit fait. Alors quand ça a été fait, ils ont entendu parler, ça.
De quelle manière?
Ben, j'ai reçu un télégramme de Julia me disant qu'il le prenait. Et je me rappelle, j'étais avec ma sœur dans le bureau. Mon téléphone était en dérangement, bien entendu. Et je me suis précipitée dans l'office et j'ai bu un verre de cognac. J'avais les jambes qui tremblaient. J'étais émerveillée. Puis, je crois que c'est sûrement le meilleur moment de ma carrière, si je peux dire. Et puis, après, j'ai cru que c'était une blague, alors j'ai vérifié sur le télégramme si c'était bien l'adresse, puis j'ai téléphoné d'en bas, enfin du café d'en bas. Et puis, ça m'a fini, c'est plus. Puis, j'étais voir Julliard, et puis on a parlé. Il a parlé de mon livre. Il dit toujours votre livre, quand votre livre sera édité, etc. Ça me paraissait une farce.
Depuis qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse. Bonjour, tristesse, ami qui me ressemble, tu es le seul miroir où je peux contempler ma jeunesse. Bonjour, tristesse. Tu sais le secret de ma peine, car c'est toi qui l'as bercé. Et s'il faut
que je me souvienne. Tu viens poser ta main sur la mienne. Et toi, tu n'oublies jamais. Depuis qu'on est ensemble, tu es mon seul amour. Et j'ai trop de faiblesse pour te quitter. Ma tristesse.
Un extrait de la bande originale du film « Bonjour tristesse » de Jacques Dattin et d'Henri Lemarchand, Juliette Gréco, était accompagnée par André Pop et son orchestre. Alors donc, en 1954, l'intrigue de « Bonjour tristesse », soit une histoire d'amours adolescentes sur la Côte d'Azur, amour licencieuse écrite par une jeune fille cachée derrière un pseudonyme, qui habite encore chez ses parents, aime danser le bebop la nuit à Saint-Germain-des-Prés dans des caves enfumées, eh bien, ça fait fantasmer la France littéraire. Dès la fin mai 54, Sagan va recevoir le prix de la critique, prix prestigieux, décerné par un jury qui compte de sacrées plumes. Jean Paulhan, Georges Bataille, Roger Caillois, Maurice Blanchot, Maurice Nadeau, même François Mauriac, pourtant ronchon car il souhaitait un autre lauréat, finira par consacrer François Sagan dans une chronique du Figaro devenue célébrissime, où le grand écrivain égratigne un peu celle qu'il appelle le charmant petit monstre, mais il rend quand même les armes lorsqu'il concède que ce qui rend un livre implacable, c'est un certain ton, une certaine vibration, l'art de se faire entendre sans forcer la voix, et même à voix basse. Il y a loin d'un style pauvre à cette phrase devenue presque transparente. Mais il faut qu'au travers, on sente la pulsation d'une vie. L'âme, quoi. Alors justement, Xavier Gallais ouvre ce petit livre d'à peine 150 pages. Voici les premières lignes.
Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à poser le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste, que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie énervante et douce et me sépare des autres.
La solitude, c'est un thème très important chez vous.
Je crois que c'est pas important chez moi, là, c'est important partout. Je crois que c'est le problème, un des problèmes majeurs actuellement. Les gens dans la rue, quand vous prenez en voiture et vous regardez les visages des piétons, il y en a qui parlent tout seuls, il y en a qui ont un drôle d'air, il y en a qui marchent à travers, il y en a qui sont affairés, mais d'une manière un peu maniaque, il y en a. C'est très étrange. Les gens sont tous un peu affolés, je crois. Je crois que c'est une époque vraiment un peu trop tendue, si vous voulez, actuellement. En temps en temps, que quelqu'un, même schématiquement, explique, même confusément comme moi, ce qu'il peut penser de la vie par rapport, et que les gens y retrouvent une idée qu'ils ont eue eux-mêmes, ça les rassure. C'est rassurant. Non ?
Oui.
Mais la solitude, c'est fou. Moi, ce qui m'a le plus frappé en 68, au moment de mai, c'était pas les feux de joie partout, parce que ça, remarquez, c'était assez gai. Mais c'était les. J'étais à l'Odéon ou à la Sorbonne, des choses comme ça, c'était le goût qu'avaient les gens de parler. On voyait des types qui étaient. On sentait qu'ils n'avaient jamais pu parler à personne de leur vie. Disons qu'ils étaient beaucoup, qui étaient vilains, qui étaient inintelligents, parce que ce qu'ils disaient était horriblement ennuyeux, qui étaient. Mortels, d'ennui. On sentait qu'ils étaient ravagés, que l'avoir un micro et que tout le monde les écoute, ils étaient sauvés. Sauvés pour peut-être une heure, mais qui s'en rappellent toute leur vie. Et ça, c'était la chose la plus belle de l'histoire.
Et ça, mais vous, on pensait que vous échappiez un peu à cette solitude, enfin, d'une part, parce que vous aviez des moyens d'y échapper.
Ah, mais moi, j'y échappe.
Le livre, l'expression, les amis, la notoriété.
Ah, mais moi,
personne n'y échappe finalement à la solitude.
Personne n'y échappe, on est seul et on meurt seul. Il n'y a pas de tortillé, c'est absolument impossible. Mais on vit seul le plus grand du temps. De temps en temps, on tombe amoureux de quelqu'un. On se croit qu'on est plus seul pendant un bout de temps, 2 ans ou 3 ans ou 1 an ou 1 mois. Et puis après, on retombe de nouveau seul.
puis à la fin de sa vie, on meurt. Et puis c'est fini. Mais la solitude dont je vous parlais, c'est que j'aime, moi, c'est la solitude physique où on peut... où j'en ai eu assez de chance pour avoir les moyens de pouvoir la nourrir avec la musique, ou avec des livres, ou avec des choses qu'on aime passionnément. Alors là, on est sauvé, je veux dire, on est heureux. La solitude heureuse. Mais la solitude fondamentale, qui est celle de l'être humain, ben, je crois que c'est irrémédiable.
Va vivre ta vie, puisque tu crois encore qu'il suffit de vouloir s'en aller. Va vivre ta vie, puisque tu crois encore que la vie, ça se vit au dehors. Mais c'est à deux qu'on fait la vie, comme c'est à deux qu'on fait l'amour. Je te le dis, je te le jure, il n'y avait qu'une seule aventure. C'est ce qu'ils appellent le bonheur. C'est ce que nous avons manqué. Va vivre ta vie comme j'ai vécu la mienne en cherchant des amours incertaines. Va vivre ta vie et que le ciel te garde d'être seul, aussi seul que je suis.
Mouloudji chante Sagan, va vivre ta vie, musique de Michel Magne. Le miracle avec Sagan tient toujours au même principe. Elle sait, avec un art infaillible de l'ajustement, placer son style, comme on dit de quelqu'un qu'il sait placer sa voix, a écrit le critique littéraire Jean-Paul Enthoven. Écoutons donc un peu ce style ajusté, un extrait de son cinquième roman paru en 1959, Aimez-vous Brahms, ce qui valut d'ailleurs au compositeur un véritable regain d'intérêt. L'intrigue de ce roman, pour faire court, une belle quadragénaire, Paul, décoratrice, est amoureuse depuis 5 ans de Roger, qui la néglige. Elle est seule souvent, alors se présente un tout jeune homme, Simon, qui tombe amoureux d'elle.
En se réveillant le dimanche, elle découvrit un message sous sa porte, ce qu'on appelait autrefois poétiquement un bleu, et qu'elle trouva poétique, car le soleil, réapparu dans le ciel si pur de novembre, remplissait sa chambre d'ombre et de lumière chaleureuse. « Il y a un très beau concert à 6 heures, salle Pleyel », écrivait Simon. « Aimez-vous Brahms, je m'excuse pour hier. » Elle sourit. Elle sourit à cause de la seconde phrase. « Aimez-vous Brahms ?» C'était le genre de question que les garçons lui posaient lorsqu'elle avait 17 ans. Et sans doute, les lui avait-on reposé plus tard, mais sans écouter la réponse. Dans ce milieu et à cette période de la vie, qui écoutait qui? Et d'ailleurs, aimait-elle Brahms? Elle ouvrit son pick-up, fouilla parmi ses disques et retrouva au dos d'une ouverture de Wagner qu'elle connaissait par cœur un concerto de Brahms qu'elle n'avait jamais écouté. Roger aimait Wagner. Il disait « C'est beau, ça fait du bruit, c'est de la musique. » Elle posa le concerto, on trouva le début romantique et oublia de l'écouter jusqu'au bout. Elle s'en aperçut lorsque la musique cessa et s'en voulut. À présent, elle mettait 6 jours à lire un livre, ne retrouvait pas sa page, oubliait la musique. Son attention ne s'exerçait plus que sur des échantillons de tissu et sur un homme qui n'était jamais là. Elle se perdait, elle perdait sa propre trace, elle ne s'y retrouverait jamais. « Aimez-vous Brahms ?» Elle passa un instant devant la fenêtre ouverte, reçut le soleil dans les yeux et en resta éblouie. Et cette petite phrase « Aimez-vous Brahms ?» lui parut soudain révéler tout un immense oubli, tout ce qu'elle avait oublié, toutes les questions qu'elle avait délibérément évité de se poser. « Aimez-vous Brahms ?» Aimait-elle encore autre chose qu'elle-même et sa propre existence ? bien sûr, elle disait qu'elle aimait Stendhal. Elle savait qu'elle l'aimait, c'était le mot, elle le savait. Peut-être même savait-elle simplement qu'elle aimait Roger. Bonne chose acquise, bon repère. Elle eut envie de parler à quelqu'un. Comme elle en avait envie à 20 ans. Elle appela Simon. Elle ne savait encore que lui dire. Probablement, je ne sais pas si j'aime Brahms, je ne crois pas. Elle ne savait pas si elle irait à ce concert. Cela dépendrait de ce qu'il lui dirait, de sa voix. Elle hésitait et trouvait cette hésitation agréable. Mais Simon était parti déjeuner à la campagne, il passerait se changer à 5 heures. Elle raccrocha. Entre-temps, elle avait décidé d'aller au concert. Elle se disait, ce n'est pas Simon que je vais retrouver, mais la musique. Peut-être irai-je tous les dimanches si l'atmosphère n'est pas odieuse l'après-midi. C'est une bonne occupation de femme seule. Et en même temps, elle déplorait que ce soit dimanche et qu'elle ne puisse se précipiter tout de suite dans une boutique en vue d'acheter les Mozart qu'elle aimait et quelques Brahms. Elle craignait seulement que Simon ne lui tienne la main durant le concert. Elle le craignait d'autant plus qu'elle s'y attendait et que la confirmation de ses attentes imaginaires l'emplissait toujours d'un ennui insurmontable. Elle avait aimé Roger pour cela aussi. Il était toujours à côté de l'attendu, un peu à faux dans toutes les situations acquises. À 6 heures, salle Pleyel. Elle se trouva prise dans un remous de foule, faillit manquer Simon qui lui tendit son billet sans rien dire, et ils montèrent les marches précipitamment dans une grande débandade d'ouvreuses. La salle était immense et sombre. L'orchestre faisait entendre en préambule quelques sons spécialement discordants, comme pour faire mieux apprécier ensuite au public le miracle de l'harmonie musicale. Elle se tourna vers son voisin. « Je ne savais pas si j'aimais Brahms. » « Moi, je ne savais pas si vous viendriez, » dit Simon. « Je vous assure que ça m'est bien égal que vous aimiez Brahms ou pas. Comment était la campagne ?» Il lui jeta un regard étonné. « J'ai téléphoné chez vous, » dit Paul, « pour vous dire que... que j'acceptais. J'avais si peur que vous téléphoniez le contraire ou pas du tout que je suis parti, » dit Simon. « La campagne était belle ? De quel côté avez-vous été ?» Elle éprouvait un plaisir triste à imaginer la colline de Houdan dans la lumière du soir. Elle aurait aimé que Simon lui en parlât. À cette heure-ci, elle se serait arrêtée à Septeuil avec Roger. Ils auraient marché dans le même chemin, sous les arbres roux. « J'ai été par-ci, par-là, » dit Simon. « Je n'ai pas regardé les noms. D'ailleurs, on commence. » On applaudissait. Le chef d'orchestre saluait. Il levait sa baguette. Et ils se laissaient glisser sur leur fauteuil en même temps que 2000 personnes. C'était un concerto que Simon pensait reconnaître, un peu pathétique, un peu trop pathétique par moments. Il sentait le coude de Paul contre le sien, et quand l'orchestre s'élançait, il s'élançait avec lui. Seulement, dès que la musique s'alanguissait, il devenait conscient de l'atout des voisins, de la forme du crâne d'un homme de rang en avant, et surtout conscient de sa colère. À la campagne, dans une auberge près de Houdan, il avait rencontré Roger. Roger avec une fille. Il s'était soulevé, avait salué Simon sans le présenter. « Il me semble que nous nous rencontrons tout le temps. » Simon, surpris, n'avait rien dit. Le regard de Roger le menaçait, lui ordonnait de taire cette rencontre. Ce n'était pas, Dieu merci, un regard complice de Franluron à Franluron. C'était un regard furieux. Il n'avait rien répondu. Il n'avait pas peur de Roger. Il avait peur de faire souffrir Paul. Il n'arriverait jamais rien de mal à cette femme par lui, il se le jurait. Pour la première fois, il avait envie de s'interposer entre quelqu'un et l'infortune. Lui, que ses maîtresses ennuyaient si vite, effrayaient même, avec leurs confidences, leurs secrets, leur volonté de lui faire jouer à tout prix un rôle de mâle protecteur, lui, Simon, si habitué à la fuite, avait envie de se retourner et d'attendre. Mais attendre quoi ? Que cette femme comprît qu'elle aimait un goujat sans envergure. C'était peut-être la chose la plus longue au monde. Elle devait être triste, elle devait retourner dans sa tête l'attitude de Roger, peut-être en découvrir les failles. Un violon s'élança au-dessus de l'orchestre, palpita désespérément en une note déchirée et retomba, aussitôt noyée dans le flot mélodieux, envahissant des autres. Simon faillit se retourner, prendre Paul dans ses bras, l'embrasser, oui, l'embrasser. Il imagina qu'il se penchait sur elle, sa bouche touchait sa bouche, elle ramenait ses mains autour de son cou. Il ferma les yeux. Paul pensa, en voyant son expression, qu'il devait être vraiment mélomane. Mais aussitôt, une main tremblante chercha la sienne et elle la dégagea avec impatience. Après le concert, il l'emmena prendre un cocktail, ce qui signifia, pour elle, une orange pressée et pour lui, deux drailles. Simon, les yeux brillants, les mains agitées, lui parlait musique et elle écoutait d'une oreille distraite. Peut-être Roger se serait-il arrangé pour quitter l'île à temps et revenir pour le dîner. De plus, on les regardait. Simon était un peu trop beau, ou simplement était-il un peu trop jeune et elle plus assez, tout au moins pour l'accompagner. « Vous ne m'écoutez pas ?»« Si, » dit-elle. « Mais il faudrait partir. On doit me téléphoner chez moi et puis on nous regarde beaucoup ici. Vous devriez être habitué, » dit Simon avec admiration. La musique et le jean aidant, il se sentait définitivement amoureux. Elle se mit à rire. Par moments, il était tout à fait attendrissant. « Demandez l'addition, Simon. » Il le fit tellement à contre-cœur qu'elle le regarda attentivement, pour la première fois sans doute, de l'après-midi. Peut-être tombait-il doucement amoureux d'elle, peut-être son petit jeu se retournait-il contre lui. Elle le croyait simplement assoiffé de conquête, peut-être était-il plus simple, plus sensible, moins vaniteux. Il était drôle que ce soit son physique qui le desserve auprès d'elle. Elle le trouvait trop beau pour être vrai. Si cela était, elle avait tort de le voir. Elle devait y renoncer. Il avait appelé le garçon, tournait son verre entre ses mains sans un mot. Il s'était tu brusquement. Elle posa sa main sur la sienne. « Ne m'en veuillez pas, Simon, je suis un peu pressé. Roger doit m'attendre. » Il lui avait demandé ce premier soir, chez Régine, « Aimez-vous Roger ? » Qu'avait-elle répondu ? Elle ne s'en souvenait plus. De toute manière, il fallait bien qu'il le sache. « Ah, oui, » dit-il, « Roger, l'homme, le brillant, elle l'arrêta. « Je l'aime, » dit-elle. Et elle se sentit rougir. Elle avait l'impression d'avoir eu une voix de théâtre. Et lui, lui aussi, bien entendu. « Tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Ne jouez pas les sceptiques, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas de votre âge. Vous devriez être au moment de la crédulité, vous. » Il l'avait prise aux épaules et la secouait. « Ne vous moquez pas de moi. Cessez de me parler comme ça. J'oublie trop que c'est un homme, » pensa Paul, en essayant de se dégager. « Il a une vraie tête d'homme en ce moment. D'homme humilié. Il n'a pas 15 ans, mais 25, c'est vrai. Je ne me moque pas de vous, mais de vos attitudes, » dit-elle doucement. « Vous jouez ?» Il l'avait lâché. Il semblait là. « Il est vrai que je joue, » dit-il. « Avec vous, j'ai joué le jeune et brillant avocat, et l'amoureux transi, et l'enfant gâté, et Dieu sait quoi. Mais depuis que je vous connais, tous mes rôles sont pour vous. Vous ne pensez pas que c'est l'amour ?»« C'en est une assez bonne définition, » dit-elle en souriant. Ils se turent quelques instants, gênés. « J'aimerais bien jouer les amants passionnés, » dit-il. « Je vous ai dit que j'aimais Roger. » Et moi, j'aime ma mère, ma vieille nourrice, ma voiture, je ne vois pas le rapport, interrompit-elle. Elle avait envie de partir, ce petit carnassier trop jeune, que pouvait-il comprendre à son histoire, à leur histoire, à ses 5 ans mêlés de plaisir et de doute, de chaleur et de peine, personne ne pourrait la séparer de Roger. Elle éprouva une telle reconnaissance pour lui de cette certitude, une telle tendresse, qu'elle s'appuya à la table. Vous aimez Roger, mais vous êtes seul, dit Simon. Vous êtes seul le dimanche, vous dînez seul et probablement vous dormez seul souvent. Moi, je dormirai contre vous, je vous tiendrai dans mes bras toute la nuit et je vous embrasserai pendant votre sommeil. Moi, je peux encore aimer, lui plus, vous le savez. Vous n'avez pas le droit, dit-elle en se levant. J'ai le droit de parler, j'ai le droit de tomber amoureux de vous et de vous prendre à lui si je peux. Déjà, elle était dehors. Il se leva et se rassit, la tête dans les mains. « Il me la faut, » pensait-il. « Il me la faut. Ou bien je vais souffrir. »
Et la musique, l'autre musique, la musique qu'on appelle classique, vous l'écoutez autant et vous la fréquentez autant?
Oui, à peu près autant, mais c'est toujours un petit peu les mêmes. On passe par des périodes. Actuellement, je suis dans une période de musique de chambre, j'écoute pratiquement des musiques de chambre, enfin, des trios, des quartets, des quintettes, c'est à peu près tout. Enfin, au point de vue classique.
Vous voulez dire que vous avez eu une période opéra, par exemple?
J'ai eu une période, grande période opéra.
Mais vous avez une période symphonique aussi?
J'ai une période symphonique avec, si on peut dire, avec Malheur. Comment s'appelle-t-il? Strauss. J'ai une grande période Richard Strauss, qui m'a passé il n'y a pas tellement longtemps. Vous savez, je ne suis pas une grande mélomane, j'adore la musique.
Mais vous la connaissez bien, mais...
Je ne connais pas très bien non plus.
Et ces engouements successifs se font sûrement par hasard. Je veux dire que Malheur, vous n'avez pas attendu que Malheur soit à la mode pour l'écouter. Vous savez que Malheur est un peu revenu à la mode, par exemple par le film de Visconti.
Oui, je sais. Je l'avais récupéré un petit peu avant, si je peux dire. En même temps que Bruckner, je ne sais pas pourquoi. J'avais un ami qui était un fou de Bruckner et qui m'avait passé... vous connaissez, c'était Michel Lancelot, qui était fou de Bruckner, qui m'avait... initié à Bruckner, je ne connaissais pas du tout, et Malheur est venu pratiquement en même temps. Quant à Richard Strauss, je le connaissais peu, je ne l'aimais pas beaucoup, et je suis tombée par hasard à la radio sur le dernier mouvement le final de Capriccio. Vous avez le mouvement symphonique de Capriccio avant le dernier acte, qui m'a complètement pris comme ça, à la gorge, quand j'ai écouté, et après j'ai commencé à écouter tout Strauss.
C'est souvent comme ça que ça se passe, c'est une phrase, un court extrait vous donne envie d'en connaître plus sur, sur tel homme ou telle œuvre.
Telle œuvre, j'écoute tout et bizarre, j'ai le goût bizarre, parce qu'il y a un quartet de Strauss que j'adore et que personne ne connaît, enfin pratiquement très peu de gens écoutent. C'est un quartet tout à fait, d'ailleurs, assez lyrique. Et voilà.
Vous travaillez en écoutant ou du moins en entendant, non? Ou alors vous avez une écoute passive ou une écoute active? Il y a une écoute où vous ne faites que ça? Ou bien une écoute, vous faites autre chose?
Non, justement, j'écoute la musique au lit, mais je vais coucher, j'écoute de la musique, quelquefois je lis, alors ou je laisse tomber de la musique pour le livre, ou laisse tomber le livre pour la musique. Je commence avec les deux, puis j'en oublie. Hein.
Mais quand vous écrivez, c'est dans le silence? Oui. Sans trahir le secret de l'écriture?
Non, j'écris dans le silence tout bêtement parce que c'est déjà difficile de se concentrer, penser à ce qu'on fait. Si en plus on suit une ligne mélodique en même temps, on est complètement perdu. Et puis, même le fait de se lever pour changer de disque, ça vous complique la vie.
Thank you.
Le final du Capriccio, opus 85 de Richard Strauss, qui avait pris à la gorge Françoise Sagan.
Et puis alors, vous avez écrit des chansons.
Oui, ça, j'ai écrit des chansons, oui, ça.
Ça, c'est une expérience amusante.
Oui, ça, c'est vraiment... Vous savez, c'est surtout un jeu, quoi. J'ai un très, très bon ami qui fait des musiques, Michel Mann, vous connaissez, quoi. Qui fait des musiques, qui fait des très belles musiques, en dehors des musiques de chansons. Alors, il a fait ça pour s'amuser, et moi, je fais ça pour m'amuser aussi. On fait une chanson en une heure, en s'amusant, quoi.
Et c'est Juliette Gréco qui chante ces chansons.
C'est Gréco et Annabelle. Elles ont fait chacune un disque. Le disque de Gréco est sorti, et celui d'Annabelle sortira en septembre.
Dans quelles conditions avez-vous écrit ces chansons? En deux heures?
Chacune, mais en une heure. Quelquefois, on faisait ça la nuit. Vous savez, dans les boîtes de nuit, quand l'orchestre était parti, qu'on continuait à danser, bousculant plus d'orchestre. Alors Michel se met au piano, moi je commençais à faire des petits griffonnages sur un papier, et quand Annabelle était là, elle chantait. Il y en a une que j'aime bien d'ailleurs.
Laquelle?
La valse, c'est ce que je préfère. Alors je suis pas tout d'accord avec Michel à ce sujet.
Ah, lui il aime une autre?
Lui il aime Sans vous aimer, qui est une autre. Puis il y en a deux ou trois comme ça. Enfin, il y en a même plus que ça, il y en a cinq ou six.
Sans vous aimer, sans l'avoir jamais pu, je m'en vais oublier cet été. Vous et l'été a jamais disparu. Leur mémoire va bientôt s'effacer. Tes mots du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis, et l'automne sourit toujours, toujours. Je n'aime que toi. Prends-moi dans tes bras. Je n'aime que toi, ne me quitte pas. Sans vous aimer, je suis seule et déçue. Vous m'aimiez et l'été me brûlait, et dans l'allée tout l'hiver revenu me fait trop ces brûlures regrettées. Tes mots du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis, et l'automne sourit toujours, toujours. Je n'aime que toi. Prends-moi dans tes bras. Je n'aime que toi. Ne me quitte pas. Sans vous aimer, je n'ai jamais rien cru de ces mots ni de vos lents baisers. Et si jamais votre cœur l'eût voulu, oubliez cet été. Tes mots du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis, et l'automne sourit toujours, toujours. Je n'aime que toi. Prends-moi de tes bras. Je n'aime que toi. Ne me quitte pas.
Juliette Gréco, en 1956, pour Le Masque et la Plume. Et oui, déjà, elle interprétait au théâtre du Vieux Colombier Sans vous aimer. Elle était accompagnée par Freddy Baltard, Henri Patterson et Sacha Distel. Et oui, Sacha Distel, du temps où il était guitariste de jazz. Restons encore un peu avec Françoise Sagan. Sagan qui disait qu'elle en avait marre qu'on répète qu'elle écrivait des romans d'amour alors qu'elle écrivait des livres sur la solitude et sur la seule manière de la casser, qui était l'amour, bien sûr.
Il faut être, je crois, assez malheureux pour écrire. Je ne suis pas quelqu'un de malheureux. La vie m'amuse trop et je ne suis pas encore dans la position d'écrire un livre vraiment passionnant, génial, si vous voulez. Je ne sais pas si par un miracle ça m'arrivera, si j'ai, je sais pas quoi, tuberculose. Par exemple, quelquefois, il m'est arrivé de rêver, même moi, je vous assure, de rêver d'avoir la tuberculose aiguë et de passer 3 ans à la montagne magique de Thomas Mann, c'est-à-dire à Davos, et là, piéger, être obligé de faire un livre qui soit génial. Parce que malheureusement, on me téléphonait gaiement, tu vas danser, et... Vous voyez, je veux dire. C'est un manque d'ambition, sans doute. C'est pas un manque d'ambition, c'est un manque de... Je sais pas, c'est un manque de quelque chose, car c'est pas bien. Peut-être que 45 ans, 50 ans, 60 ans, quand je ne plairai plus à personne et que je regarde une vieille chose, peut-être qu'à ce moment-là, à force de tristesse et de désolation et de solitude, enfin solitude possible, à ce moment-là, peut-être, je mettrai travailler vraiment, enfin tout le temps. Ou alors, je courrai les instituts de beauté pour me faire remettre le visage, vous voyez, poupin.
Bon, Sagan est la personne...
Juliette Gréco.
Que je préfère, je crois. Elle a tout. C'est-à-dire qu'elle a l'humilité, la drôlerie, l'amitié, la générosité, l'intelligence, la culture.
Le sens du petit détail.
Oui, quand on parle de la petite musique de Sagan, ça m'énerve, mais c'est quand même vrai. Elle a sa petite musique propre.
Ce soir cueille sa longue mélancolie. La vie, les feuilles, le bruit, l'alcool et la nuit. Bah, moi je n'ai que toi, et tu n'as que moi, et tu nous perdras quand tu l'oublieras. Bah, que faire sans toi, ni l'ombre sans joie, ni le soleil dur ne me l'apprendra. J'en meurs de douceur quand tu m'as embrassé. Mais que je meurs pour de vrai si jamais ton amour me quittait. Le jour délaisse le ciel, mais mes jours, la mer s'endort sur le sable, ton cœur s'endort sur mon cœur.
Le jour, signé Sagan et Michel Magne, Juliette Gréco sur la scène de la Comédie des Champs-Élysées. C'était une émission de Jacques Dieval intitulée « Jazz aux Champs-Élysées » le 30 janvier 1957. Une archive de l'INA comme toutes celles que vous aurez écoutées ce jour grâce à Jean-Michel Coqui au mixage « Les greniers de la mémoire », une émission de Karine Lebas et réalisée par Christine Amado et préparée par Françoise Montel. Et à la semaine prochaine, j'espère, vous pouvez en tout cas réécouter en ligne cette émission durant un mois ou bien la podcaster sur le site des greniers de la mémoire francemusique.fr.